Alors, merci de m'accorder ce temps de parole. Tout d'abord, j'aimerais dire que, chers amis, je crois que nous ne sommes pas à la bonne place aujourd'hui, ici, dans cette église. Et que, finalement, le royaume de Dieu, il est en train d'arriver. Et que, dans les années 2030, 2035, 2040, nous allons vivre dans une sorte de paradis où il n'y aura plus besoin d'immigrants, où il n'y aura plus besoin d'avoir des personnes qui s'occupent des personnes âgées, où il n'y aura plus de pauvreté. Et s'il y a des problèmes écologiques, nous pourrons aller sur une autre planète, grâce à SpaceX ou grâce à toute la technologie, à la technoscience qui nous promet un avenir prometteur. Nous pourrons nous faire greffer sur notre cerveau donc des puces qui nous permettront d'être un homme augmenté avec un savoir infini. Donc nous faisons fausse route, nous ne sommes pas au bon lieu. Nous aurions dû être à Davos pour écouter les prophètes d'aujourd'hui, les prophètes de notre monde, pour écouter les puissants de ce monde, les rois du monde, qui nous annoncent monts et merveilles et pour les années à venir. Ces nouveaux prophètes, en fait, professent une foi qu'on pourrait appeler la foi dans la technoscience. Cette technoscience, c'est ce qui va nous permettre d'avoir son petit robot à la maison, c'est ce qui va nous permettre, disons, d'avoir toutes les facilités du monde et vivre beaucoup mieux dans un monde, comme je l'ai dit, presque parfait. Comme vous avez pu le comprendre, j'avais envie de parler de la foi, mais trêve de plaisanterie, on va revenir à quelque chose d'un peu plus intéressant et ce qui nous concerne, et qui concerne cette foi qu'on a en Jésus, cette foi qu'on a en la promesse aussi d'un monde à venir, d'une terre à venir, mais qui n'est pas tout à fait la même terre que envisagent certains de ces personnages hauts en couleur, on dirait fort en gueule aussi, et qui ont aussi beaucoup de moyens pour se faire entendre, parfois pour dire un peu que des conneries, je m'en excuse, des fois si je le dis vraiment, ça me fait du bien, ça me lâche, parce que vraiment on vit dans des temps un peu spéciaux, avec des gens qui professent des choses, et c'est pas des fake news, hein, quand je dis que les robots vont venir, et que le fait qu'il y ait plus de robots, ils n'auront plus besoin d'immigration, et qu'il y aura plus de métiers à repourvoir, etc., donc ce n'est pas une fake news, ça a été dit par le président de Palantir, ça a été dit aussi par le président de SpaceX, donc Elon Musk, pour ne pas le citer, enfin voilà. Donc, ce qui nous intéresse, je crois, ici, c'est bien autre chose, c'est la foi, et c'est la foi en Jésus, c'est la foi en Dieu, et c'est de cette foi que j'aimerais parler aujourd'hui, et rassurez-vous, vous êtes tout à fait à votre place, je suis à ma place, et puis pour parler de quelque chose qui va nous faire du bien, je l'espère, qui va me faire du bien aussi, je l'espère. Donc pourquoi la foi? Eh bien, c'est une idée qui m'est venue lors du week-end, décidément, ce week-end avec les Juvets, c'est quelque chose. Moi, j'en suis pas revenu complètement indemne, nous avons ensuite décidé de poursuivre avec ces modules concernant cet enseignement qui était délivré par les Juvets, donc sur la culture de l'honneur, mais c'est vrai que j'ai pas été insensible au charisme et à la présence des Juvets aussi pendant ce week-end. C'est-à-dire qu'il émanait de cette personne, de ce Thierry, il émanait aussi de sa femme Monique, quelque chose qui s'apparente un peu à ce qu'il disait, ce qu'il souhaitait aussi, c'est-à-dire être capable d'être un chrétien qui, quand il est dans un endroit, arrive à changer un peu l'atmosphère des lieux, arrive un peu à changer l'esprit, rien que par sa présence. Et je trouvais qu'au-delà de son enseignement très intéressant, ce qu'il transparaît chez ce personnage, c'est vraiment une foi réelle, c'est-à-dire qu'il a foi dans ce qu'il dit et il croit vraiment ce qu'il dit. Au fond, la foi chrétienne, ça se résume à pas grand-chose. C'est vraiment quelque part, c'est je crois en un Dieu créateur, je crois en Jésus-Christ, son Fils qui a été envoyé pour le salut de l'humanité, qui a donné sa vie pour moi, je m'associe à sa mort et je ressuscite avec lui. En gros, c'est assez simple, mais je crois que finalement, ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Et quand quelqu'un vraiment a cette ferme conviction, a cette ferme foi, quelque part ça transparaît, ça rayonne et ça crée cette atmosphère ou cette ambiance différente ou ce parfum de bonne odeur, je pourrais aussi dire, qui a été dit également par l'apôtre Paul, c'est pas de moi, donc ce parfum de bonne odeur qui va se répandre et qui va faire du bien, qui va donner aussi envie, finalement faire envie pour embrasser cette foi, connaître un petit peu l'espérance qu'il y a dans ces personnes qui rayonnent au fond, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait amener les personnes à se dire, mais qu'est-ce qu'il y a chez ces personnes-là, qu'est-ce qu'il y a de différent pour qu'ils soient comme ça, ils aient cet amour, ils aient cette lumière dans les yeux, parce que oui, c'est effectif, je vous vois là, vous êtes des étoiles, vous avez tous des lumières dans les yeux, parce que vous êtes réellement convertis, vous êtes réellement nés de nouveau, et ça se voit, ça se sent. Pour moi, c'est facile aussi de prendre la parole devant vous, parce qu'il y a une communion, il y a quelque chose, c'est facile, parce que oui, quelque part, il y a ça, il y a cette réceptivité, vous avez accepté le Christ dans votre cœur, vous êtes transformé, n'est-ce pas? Et donc, voilà, c'est cette foi qui vous habite, qui nous habite. Et au fond, qu'est-ce que c'est, en gros, cette foi-là? Et c'est important, ben, aussi, au travers de Thierry Jouvet, au travers de toutes les personnes qui sont là, c'est aussi notre manière d'être, notre façon d'être. Comment est-ce qu'on habite cette foi? Comment est-ce qu'on la répand par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, et plus que par ce qu'on dit, par l'implicite, par tout ce qu'on émane également, qu'on émane aussi par la chanson, par la louange également. Ou bien en se taisant, tout à l'heure, j'ai aussi, c'est vrai qu'on peut sentir aussi cette présence quand on se tait, et c'est habité par quelque chose. C'est pas habité par des mots, c'est habité par une présence et par l'esprit. Alors oui, parlons de cette foi. Alors si je parlais de foi tout à l'heure à Davos, parmi ces personnes qui croient en la technoscience, quelque part, c'est qu'ils ont une certaine forme de foi, une certaine forme de foi dans la science. En fait, on a vraiment aujourd'hui cette façon de voir les choses. On croit, donc, ce qu'on appelle aussi le progressisme, c'est-à-dire qu'on peut croire qu'on va vers un progrès perpétuel, que la science va amener toutes les réponses et qu'un jour, on va vivre dans une sorte de paradis grâce à l'évolution de cette science. Alors, c'est tout n'est pas à rejeter, bien sûr, dans la science, on est bien d'accord, mais disons qu'en faire un absolu, c'est en faire une idole, au fond, qui va remplacer le vrai Dieu de l'incarnation et auquel on croit. Et merci de croire à ce Dieu-là plutôt qu'au Dieu de la science. Merci vraiment, quoi. Alors, si on veut définir un peu ce qu'est la foi, je partirai tout d'abord par l'étymologie du mot qui vient du latin fides et qui veut dire confiance en. Alors, dans notre monde rationnel et sécularisé, on aurait tendance à y voir tout de suite une connotation religieuse. Mais au fond, pas du tout, parce que dans la vie quotidienne, on invoque souvent cette foi dans nos actions, dans nos actes les plus quotidiens. Par exemple, vous connaissez très bien mon intérêt pour mon intérêt pour la voiture électrique. Quelque part, si je prends ma voiture et que je ne fais pas confiance aux concepteurs, aux constructeurs, à tous ceux qui sont derrière et qui suivent et qui font en sorte que ce véhicule puisse continuer à fonctionner, quelque part, je ne pourrais pas arriver à mon port. Si je bois l'eau de mon robinet, c'est grâce au SIG donc je fais confiance et j'ai foi aussi dans cet organisme qui va vérifier la qualité de l'eau et qui va me permettre d'avoir de l'eau potable. Je fais confiance aussi à ceux qui mettent en place aussi l'électricité. Si je n'avais pas fait confiance à l'électricité et à Internet, je n'aurais pas pu non plus avoir ce message aussi aujourd'hui. Quelque part, donc, c'est aussi faire quelque part confiance et avoir foi aussi dans les choses qui nous entourent. Donc, quelque part, ce que je veux dire par là, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose de particulier, d'exceptionnel, quelque part, même sans s'en rendre compte, on l'utilise en permanence, on ne pourrait même pas vivre sans cette foi dans la vie de tous les jours. Alors, ceci m'amène à cette première définition, on va dire, spirituelle ou biblique de la foi, qui est dans l'Épître aux Hébreux, que vous connaissez certainement, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En effet, quand je prends l'avion, j'ai une ferme assurance de ce que j'espère, c'est-à-dire arriver à destination finale en toute sécurité. Et c'est aussi la démonstration des choses que je ne vois pas, à savoir quoi? La confiance que je place dans tous ces agents que je ne connais pas, mais qui ont contribué au bien-être et à ce que ce voyage se passe sans accroc. Donc, si ce vol est rendu possible, c'est grâce aux ingénieurs, c'est grâce aux ouvriers, c'est le personnel à l'intérieur et à l'extérieur de l'avion qui l'a rendu possible. Donc, effectivement, c'est quelque chose que je ne vois pas, mais démonstration de ce que je ne vois pas, mais quelque part, vous voyez, dans la vie quotidienne, on a ce principe en permanence. Alors, la foi, maintenant, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, donc, c'est-à-dire, on va arriver là à quelque chose de plus fondamental, c'est la foi en laquelle nous croyons, qui est une foi qui est commune à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, c'est-à-dire commune au judaïsme et au christianisme, dans un premier temps. Et nous avons l'apôtre Paul, qui est cet érudit et qui est ce pivot entre les deux cultures, entre la culture hébraïque et la culture chrétienne, qui est vraiment l'homme providentiel, parce qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas connaître l'histoire juive, de ne pas connaître la loi juive et de ne pas connaître tout ça. Donc c'était, je crois, le disciple ou l'élève de Gamaliel, qui était aussi un grand prêtre aussi, qui avait une grande autorité. C'était le pharisien le plus zélé de son époque. Et tout d'un coup, renversement brutal, et ça a dû faire très mal à tous ces pharisiens, parce qu'ils le voyaient vraiment comme un modèle. Tout d'un coup, il change complètement d'orientation avec son histoire de vision à Damas. Et puis voilà, c'est quelqu'un d'autre et qui va prêcher quelque chose de différent. Pas si différent que ça, c'est ce qu'il va essayer de le dire, c'est-à-dire que, justement, quand il va vouloir parler à ses co-religionnaires, et il va bien essayer de montrer que la foi en Christ, ce n'est pas quelque chose de si nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une continuité parfaite entre ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a maintenant. Et donc, il y a ce magnifique passage dans Hébreux 11. Et je vais citer quelques versets, justement, où là, il essaye de démontrer ce qu'il vient de dire par rapport à ce verset sur la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et voilà qu'il va reprendre l'historique de grandes figures de l'Ancien Testament, et puis qui va aussi nous raconter que sans la foi, ben, finalement, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Et nous n'aurions pas non plus, nous, eu cette révélation que nous avons et qui font que nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Alors, je vais donc lire ce magnifique passage. Je ne dirai pas tout, parce qu'il y a beaucoup. Il y a un malin plaisir de l'apôtre Paul de citer énormément, et d'ailleurs, il le dit, mais si je continuais, je n'aurais pas le temps, parce qu'il y a tellement de références à la foi dans les actions des grands personnages de l'Ancien Testament, donc je ne peux pas tout relater. Alors, il se fait un malin plaisir d'en dire un certain nombre. Pour l'avoir possédé cette foi, les anciens, voilà ce qu'il dit à Hébreux 11, hein, pour l'avoir possédé cette foi, donc les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi encore qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il ne voit pas, mais c'est la démonstration des choses qu'il ne voit pas. Il sait que ça va venir, il ne le voit pas encore. Quelque part, là, c'est vraiment la démonstration de ce qui a été dit dans le premier verset. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Oui, parce que là, j'ai juste manqué l'épisode de Sarah, donc qui était à un âge avancé, et qu'on pensait qu'elle resterait stérile et qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Donc c'est par la foi qu'il a quand même réussi à avoir une descendance à plus de 80 ans, si je ne m'abuse, ou je ne sais plus exactement quel âge. En tout cas, un âge très avancé, qui a fait d'ailleurs, qui a fait que donc le fils d'Abraham et Sarah, on l'a appelé Isaac, j'ai trouvé ça extraordinaire, qui veut dire en hébreu rire. Ça veut dire rire. Itzak veut dire rire. Donc parce que la femme, Sarah, elle a ri quand l'Éternel lui a dit qu'elle allait avoir un enfant. Elle ne pouvait pas y croire. Mais enfin, je suis d'un âge avancé. Comment pourrais-je avoir un enfant? Elle a ri. Vous voyez, donc c'est vrai que c'est drôle, quelque part ça m'a fait rire. Et le fait d'avoir nommé son fils Isaac, rire, quelque part, je trouve ça extraordinaire. Alors donc, encore une fois, Paul continue la longue liste en parlant de la naissance de Moïse, de son sauvetage dans les eaux du Nil, le fait qu'il ait préféré donc partir et s'exiler en quittant le confort de la terre d'Égypte, donc il appartenait quand même à la cour, et donc il va quitter aussi cette zone de confort pour aller vers un lieu qu'il ne connaît pas. Donc il y a tant de choses encore comme ça qui sont racontées et qui démontrent que cette foi, elle est bien présente dans l'Ancien Testament. Et donc, au fond, cette foi, c'est la démonstration de quelque chose de supérieur à la loi et qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament, et que le christianisme, au fond, n'a rien inventé sur ce plan-là. Quand on insiste sur la foi et qu'on insiste plus sur la foi que sur la loi, quelque part, ben voilà, donc on peut trouver des exemples aussi dans l'Ancien Testament où les personnes ont agi par foi plus que par respect de la loi. Et c'est aussi, bien sûr, tout le message du Christ qui va insister sur cette foi, qui est faite aussi de cohérence et de sincérité. Et donc cette foi, donc il va professer, va le conduire, on sait où, c'est-à-dire jusqu'à la crucifixion. Donc Dieu s'est servi d'un des plus grands érudits et connaisseurs de la loi juive pour faire ce lien, être ce pivot entre ces deux mondes, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans les passages qui vont suivre, on va bien voir comment Jésus va faire de la foi l'élément constitutif de la croyance en Dieu. Tout d'abord, un premier passage dans Matthieu 8, 5 et 13, c'est le passage qui concerne le centenier. J'adore ce passage, je le lis. « Comme Jésus entrait en Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant. » Centenier, donc, c'est un officier romain qui a, comme son nom l'indique, une centaine de soldats sous ses ordres. Donc c'est quelqu'un d'important qui est un soldat qui donne des ordres à une centaine de personnes. Et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ça, c'est repris dans la liturgie catholique, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est que très souvent, donc, pour faire pénitence ou pour faire preuve d'humilité, on dit cette parole que je trouve extraordinaire. C'est « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Donc, quelque part de nouveau, c'est une foi en action, c'est-à-dire qu'il croit que le Christ n'a pas besoin de toucher, n'a pas besoin d'aller chez lui. Sans voir, il va le guérir, et puis quand il arrivera, il sera déjà guéri. Démonstration de ce que je ne vois pas. « Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, dit ce centenier, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. » Là, vous avez la jonction entre le Nouveau et l'Ancien Testament, la jonction entre les chrétiens et les premiers Hébreux croyants. Il y a cette jonction-là. Ils seront à la table dans le royaume des cieux. Donc, il y a cette ouverture du Christ. Et on va en parler, hein, mais le centenier romain, on va voir ce que ça signifie pour un juif, un centenier romain. Enfin, bon, il faut réaliser la situation, c'est dingue. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et voilà, c'est Jésus qui va donner un ordre à un officier. Et donc, juste pour réaliser un peu ce que ça signifie, imaginons un centenier romain. Donc, c'est un occupant, donc c'est un homme important, donc il a une fonction, il a un grade important, il occupe un territoire. Imaginez quand même, et ça on le sait très bien, le ressentiment des Juifs, le ressentiment des habitants, des Israélites, face à l'occupant romain. Enfin, on se fait envahir quelque part, on n'aime pas l'occupant. Donc, il y a l'occupé et il y a l'occupant. Ensuite, ben voilà, c'est un occupant romain d'un autre pays, donc il pratique l'idolâtrie, encore voilà, quelque chose de tout à fait condamnable pour un juif. Et voilà que ce centenier s'adresse à quelqu'un qui est occupé. Donc l'attitude normale que cet officier devrait avoir, c'est du mépris pour Jésus. Du mépris, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, ben voilà, c'est un juif, moi je suis l'occupant quelque part, bon c'est ce petit citoyen-là, mais qu'est-ce qui va encore m'embêter? Enfin je veux dire, on va pas avoir un grand respect par rapport à ce personnage. Et donc d'où la foi extraordinaire, renversement complet, c'est-à-dire que ce pauvre Jésus, parce qu'il était pauvre quand même à la base, c'était pas quelqu'un qui, alors oui il rayonnait quelque part, il faisait des choses miraculeuses, mais enfin il avait pas l'apparence de quelqu'un qui était majestueux comme un centenier romain avec tous ses gars long, etc. Et donc là, on a une inversion, c'est-à-dire que finalement, le centenier, il va aller au-delà de l'apparence, et puis il va comprendre que Jésus lui est infiniment supérieur, et qu'il peut guérir son serviteur d'une seule parole sans qu'il soit physiquement présent, démonstration de ce que je ne vois pas. Il y a renversement des rôles. Il croit sans voir que Jésus peut guérir son serviteur à distance. Par cela, sa foi est donc vraie, une vraie démonstration, quelque part. Le centenier décide de se mettre aux ordres de Jésus. Il accepte sa pleine autorité quand ce dernier lui dit « Va, qu'il te soit fait selon ta volonté. » Donc là, il y a un renversement. Ce n'est pas lui qui va dire ça à ses soldats, à ses inférieurs, à ses subordonnés. « Va, fais ci ou cela. » C'est Jésus qui va avoir l'autorité sur lui et qui va le prendre comme un soldat, au fond, qui est inférieur, et qui va lui dire « Va aussi, donner un ordre. Va, rentre chez toi. Ton serviteur sera guéri. » Donne un ordre, quelque part. Maintenant, tu vas, ta foi... ta foi t'a sauvé quelque part, c'est, disons, ton serviteur sera guéri. C'est aussi sympa de noter, de voir qu'il ne cherche pas à être guéri lui-même, le centenier. Il veut que son serviteur soit guéri. Donc ça montre quand même le personnage. Ce personnage, il aime son serviteur, il est subordonné, mais il n'empêche qu'il veut sa guérison. Il veut son bien. Et ça, ce n'est pas non plus si courant quand il y a une hiérarchie militaire, surtout dans l'Antiquité, hein, qu'un maître comme ça se préoccupe de son serviteur à ce point-là. Donc, quelque part, là, on a un très très bel exemple de foi, et puis d'inversion des rôles, finalement, où pour avoir la foi, c'est accepter l'autorité, déjà, c'est reconnaître que Dieu a cette autorité, je me soumets, je me remets à son autorité, et après ça, j'accepte cette autorité, et puis donc, j'ai foi que tu peux faire quelque chose de grand, j'ai foi que tu peux vraiment transformer, que tu peux guérir, et donc voilà. En fait, c'est ça, c'est que la foi, et quand on l'a vu dans tous ces exemples, dans les exemples de l'Ancien Testament, la foi, c'est quelque chose qui devrait venir avant la compréhension. C'est non pas comprendre pour croire ou pour avoir la foi, mais c'est plutôt croire pour avoir la foi, en quelque sorte. Là aussi, il y a une sorte d'inversion. Après, nous avons plusieurs passages. Nous avons un passage dans Matthieu 17, 20, où là, il est question de la foi comme un grain de moutarde. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi ici, et là, elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Donc là, Jésus utilise une hyperbole, c'est-à-dire qu'il y a une exagération, avec une opposition à quelque chose qui est très petit. Si vous aviez au moins une toute petite foi, quelque part, vous pourriez faire d'immenses choses, c'est-à-dire déplacer une montagne. Et donc là, ben oui, c'est une hyperbole, c'est une exagération. Il y a quoi ? Il y a cette volonté de montrer, gens de peu de foi, quelque part, s'il y a des choses qui ne se passent pas, c'est qu'autrefois, elle n'est pas très grande, elle n'est même pas l'équivalent d'un petit grain de moutarde. Donc, là aussi, souvent, Jésus essaie de nous piquer par des paraboles, par des images, pour essayer de nous faire réagir, et surtout qu'on puisse embrasser cette foi et qu'on puisse avoir cette foi plus importante. Donc, parce que dans de mains endroits, Jésus déplore ce manque de foi de ses contemporains et de ses disciples. Un exemple célèbre se trouve bien sûr dans l'épisode des disciples apeurés dans la barque au milieu de la tempête. En Matthieu 8, 23-27, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Ce n'est pas juste une petite tempête avec un peu de pluie. Hein. Puis ce n'était pas les bateaux d'aujourd'hui. Hein. Et lui dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et là, vous avez un exemple de cette foi comme un grain de moutarde qui permet d'agir sur les éléments naturels. Ce n'est pas une montagne, mais c'est une tempête. Et voilà, un peu de foi. Jésus est l'incarnation, il a confiance, il a foi, il dort. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il va intervenir. Et cette foi qui est en lui, évidemment, c'est l'exemple de la foi. Jésus, il va intervenir et la tempête va se calmer. Donc, des exemples, il y en a beaucoup, et bien sûr qu'on pense aussi au Christ quand il doit affronter le calvaire, la souffrance sur la croix, et donc sa mission, aller jusqu'au bout de sa mission. Il y a cette fameuse coupe, et donc cette fameuse prière, que cette coupe, si c'est possible, soit éloignée de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Là, encore une fois, Jésus voit plus loin, il voit plus loin que l'immédiateté de sa souffrance, il voit que par-delà, au-delà, il y aura quelque chose de plus grand. Mais simplement, il peut pas. C'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite ici et maintenant. C'est quelque chose qui va demander beaucoup de sa part, sa mort, une mort dans les souffrances, et en vue d'une quelque chose de meilleur, finalement, d'une résurrection, avec aussi nous qui allons nous associer à cette mort et qui allons ressusciter avec lui. Et donc avec un nouveau peuple, le peuple des chrétiens, avec cet universalisme où tous les gens de l'Orient, de l'Occident vont venir et vont pouvoir, connaître aussi cette vérité. Et la vivre. Alors après, il y a un autre passage. Et c'est un passage que j'aime bien, qui insiste un peu sur l'humilité qui est nécessaire aussi à tout un chacun pour embrasser cette foi. C'est bien sûr le passage, ou bien sûr un passage de nouveau hyper connu, mais dans Luc 18, 16, c'était aussi le verset de ma confirmation quand je me suis converti à l'âge de 15 ans. Mais Jésus appela les petits-enfants et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et si vous prenez ce passage avec le passage sur le centenier, ben le centenier, qu'est-ce qu'il a fait ? Face au Christ, il est devenu un tout petit enfant, il a fait confiance, il a obéi. Et donc c'est ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester des petits-enfants immatures, hein, parce qu'il y a ces deux aspects. Il y a, ne soyez pas des enfants, dit Paul, mais soyez des gens matures dans l'expression et dans la progression de la foi. Mais il y a quand même cette notion du petit-enfant. Là, à midi, j'étais mangé à Port Gitana avec maman. Nous avions pas mal de familles avec des tout petits-enfants. Je voyais ces petits-enfants complètement dépendants de leurs parents. Ils ne pourraient... Mais là, on ne parle pas des enfants à 14-15 ans. Dieu sait si je les connais, ceux-là. Je suis enseignant au cycle. Hein, donc voilà. Ça, je commence déjà un peu dans la rébellion. C'est pas forcément l'obéissance parfaite. Mais un petit enfant, il dépend entièrement de ses parents. Je veux dire, s'il ne fait pas confiance, il meurt. Il a besoin des parents quand il est tout petit, il ne peut pas faire autrement. Donc ça veut dire, voilà, on insiste, le Christ, soyez des petits-enfants. Arrêtez avec votre orgueil. Le centenier, il est devenu un tout petit enfant face à Jésus, et Jésus est devenu son père. Et puis là, quelque part, il a senti ça. Et voilà. Et puis là, donc, il a eu cette foi extraordinaire, et voilà, qui lui a permis d'avoir son serviteur guéri. Oui, ces petits-enfants. Et donc, ça fait aussi penser que Jésus, il n'a pas cessé aussi, pour montrer des illustrations et donner des exemples de foi, il n'a pas cessé de prendre des exemples, non pas parmi le peuple élu, mais parmi les choses folles du monde. Car Dieu a choisi les choses folles du monde afin de confondre celles qui sont. Et donc, petit-enfant, oui, c'était une chose folle. Un petit-enfant, pourquoi ? Parce qu'il avait... Et c'est intéressant si vous regardez aussi un petit peu l'histoire de l'art. Vous ne pouviez pas représenter un petit enfant au Moyen-Âge comme un petit enfant, il fallait toujours qu'il ressemble un peu à un adulte quelque part, qu'il soit déjà un peu évolué. Ça ne pouvait pas être ce petit enfant encore informe, informe, mais il fallait qu'il montre déjà qu'il était un peu un petit adulte sur les tableaux. Eh bien, parce que, ils ne connaissent rien, ils n'ont pas le savoir, donc statutairement, ils sont très petits, ils sont très bas, ils n'ont pas la connaissance, n'est-ce pas ? Donc, c'est encore une chose folle que va utiliser Jésus pour faire passer un message et pour nous exhorter à être humbles finalement devant lui, à être vraiment comme des petits-enfants. Si vous croyez être quelque chose alors que vous n'êtes rien, c'est aussi quelque part, c'est aussi dit ça, donc c'est important vraiment de... Ou bien quand il y a Jean-Baptiste aussi qui a cette humilité aussi de reconnaître que lui, il est juste un passeur, il est juste quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Mais finalement, il n'est pas digne, c'est extraordinaire quand il dit je ne suis pas digne de délier les sandales de ses pieds, ou bien à force qu'il grandisse en moi à force que je diminue. Qu'il grandisse en moi à force que je diminue. Et donc, tout est résumé. Hein, c'est vraiment accepter que Dieu prenne possession de nous et que on diminue, hein, donc notre ego, tout ça, donc tout ce qui fait notre nature première adamique, on va dire, qu'elle soit engloutie par la mort et que on ressuscite vraiment cette nouvelle créature en Dieu et en Jésus. Quelques pistes maintenant pratiques pour affirmer et développer cette foi. Alors, dans un premier temps, la foi. Ça, on en avait discuté, je crois, avec certains d'entre vous. On dit, c'est vrai que la foi, la base, c'est comme un don de Dieu, à la base, hein, qu'elle ne vient pas de moi, c'est quelque chose que Dieu donne. Ensuite, c'est important de la développer. Comment je la développe ? C'est rester ancré dans la parole. Et là, je rejoins de nouveau ce que je disais au début, c'est-à-dire, quand je dis rester ancré dans la parole, c'est croire vraiment dans cette parole. Ce n'est pas juste une parole que je vais lire, ce n'est pas juste un livre comme parmi d'autres. Le problème, c'est qu'on a tellement de livres, on lit tellement, on a tellement de surinformations, que notre cerveau, il sature, et puis finalement, on ne se rend même plus compte de la particularité de ce livre par rapport aux autres, par rapport aux philosophies, par rapport aux romans, par rapport aux géopoliticiens, saints qui nous assènent leur vérité jour et nuit. On ne se rend pas compte, c'est-à-dire que cette parole devient étouffée par une surinformation. Il y a une inflation de l'information qui fait qu'on a de la peine à entendre vraiment cette parole, à se rendre compte de la spécificité de cette parole, et puis simplement qu'on n'y croit plus vraiment complètement. En fait, je dis parfois, tendance à ne plus croire vraiment complètement. C'est-à-dire que, bon voilà, ben, le christianisme, c'est une croyance comme une autre, mais il y a le bouddhisme. Je lisais encore un article de Fabrice Midal, qui est un bouddhiste. Alors, il dit des choses intéressantes, mais finalement, ben voilà, ben lui peut-être aussi, il a raison, à travers le bouddhisme, il y a une certaine sagesse, il y a un comte Sponville, philosophe, qui était catholique au départ, alors qui a complètement renié toute forme de foi, puis alors qui parle du plaisir de penser, comme quoi c'est merveilleux d'être athée, c'est fantastique, depuis le moment où il est athée, tout va très très bien dans sa vie, etc. Bon, ben voilà, là vous voyez, quelque part, on est tellement influencé qu'on a envie de savoir, on a envie de connaître, alors on lit des fois des livres, et quelque part, n'est-ce pas, est-ce que c'est pas un peu des voleurs de temps, tout ça, plutôt que rester dans l'essentiel. Mais c'est difficile quand il y a toutes ces voix différentes et avec les médias nouveaux, avec les médias, les réseaux sociaux, etc., etc. C'est pas facile de rester vraiment ancré dans cette parole. Alors après, il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais pour développer cette foi, c'est se frotter les uns aux autres, se confronter, se rencontrer. On parlait d'individualisme tout à l'heure. C'est vrai que c'est terrible, l'individualisme. Et moi, je le dis aussi pour moi, quelque part, on a cette tendance fâcheuse à se recroqueviller, à se replier sur soi et ne pas aller vers l'autre. Et merci à cette église, vraiment, j'aimerais dire merci à cette église, parce que quelque part, on vit quelque chose de communautaire. Et moi, c'est un lieu de ressourcement. Je crois qu'il n'y a pas un moment où je me suis retrouvé avec des frères et sœurs, que ce soit dans des groupes d'enseignement, dans des groupes concernant le groupe missionnel, ou, qui ne m'ont pas fait du bien, quoi, je veux dire. Et puis, des fois, une espèce d'étonnement, parce que moi, j'en connais ces groupes dans l'enseignement, je suis dans l'enseignement, on n'arrête pas d'avoir des groupes, etc. Mais des fois, il y a un mal-être, on ne comprend pas ce que l'autre veut dire, on n'est pas bien, on en a marre, on regarde sa montre, etc. Souvent, quand je suis dans votre présence, j'ai envie de rester, je suis bien, Et c'est vrai que ça fait une différence extraordinaire. Donc, c'est vrai que là aussi, on doit s'exhorter. On s'exhorte d'ailleurs. Hein, et on se fait du bien les uns les autres. Moi, je le dis aussi à moi, je suis un individualiste invétéré. Donc, ça, peut-être que vous l'avez remarqué, j'ai une tendance au recroquevillement. Je suis fils unique, qu'est-ce que vous voulez il faut que je lutte là contre. Tu parlais d'individualisme, moi, je dois beaucoup lutter. Va vers les autres. Des fois, le fait d'être obligé de travailler, d'aller dans un monde où je vois beaucoup de monde, mais ça me fait du bien, mais je dois me botter le cul, je peux vous dire. Des fois, c'est pas facile. J'ai envie vraiment de rester chez moi et de voir personne. Pendant des mois. Non, mais c'est terrible. Hein, j'ai un peu cette tendance. Donc, l'exhortation, l'édification, le fait de se supporter les uns les autres, mais dans le bon sens du terme, supporter, se soutenir aussi les uns les autres, hein, s'exhorter, se faire du bien, c'est important. Et donc, encore une fois, c'est vrai que ce monde cherche à nous détourner de la foi. Donc, il faut aussi être sensible aux sources auxquelles nous puisons. Je parlais de la philosophie, je parlais de toutes ces philosophies qui nous entourent. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça, c'est un verset qui revient constamment chez moi. Je me dis, mais c'est vrai, fais attention, Olivier. Bon, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes la télévision? Est-ce que c'est pas un voleur de temps, là? Et t'écoutes ces émissions de géopolitique, ça te passionne, d'accord. Mais t'aurais pas pu peut-être faire autre chose pendant ce temps-là? Et puis oui, c'est un peu facile d'entendre tous ces, c'est passionnant ce qu'ils racontent, ces géopoliticiens, sur ce qui se passe dans le monde et tout. C'est passionnant. Mais quelque part, pour moi, ça peut devenir une addiction, une forme de drogue, et ça, c'est un peu un voleur de temps par rapport à des choses qui pourraient m'édifier davantage, exactement ce que dit Paul. Tout est permis, il ne va pas nous culpabiliser, il ne va pas nous juger, mais bon, mais Olivier, fais attention quand même, parce que d'accord, c'est permis, je ne vais pas te culpabiliser si tu fais ça, mais ça, tout n'édifie pas, tout est permis. Vous vous rendez compte de cette phrase, mais c'est extraordinaire. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire qu'on ne culpabilise pas, mais faites attention, parce que toute nourriture n'est pas bonne. Quelque part, ça peut aussi y avoir des nourritures qui ne sont pas bonnes pour nous, qui nous font douter ou qui nous font trébucher, n'est-ce pas? Bien. Conclusion. La foi est un don reçu à développer avec l'aide de Dieu et de la communauté. La foi n'est pas le propre du Nouveau Testament, il y a vraiment cette continuité entre l'Ancien et le Nouveau. On la retrouve comme vertu cardinale dans les deux alliances. La foi est communicative, contagieuse, elle est appelée à se développer, à grandir et à s'affermir. On la reçoit, mais à nous de la développer jusqu'à notre dernier souffle. La foi, c'est faire comme si une chose qu'on demande est d'avance déjà obtenue, quelque part. La foi se cultive, on parlait, dans le silence et la méditation de la parole de Dieu, dans la confiance que Dieu nous parle, loin du bruit du monde. Elle se cultive aussi dans notre confrontation aux frères et sœurs, aux autres. Donc après, je reparle un peu de ce règne de l'image qui nous vole de temps, comme voleur de temps. Le règne de l'image, comme annoncé dans l'Apocalypse, vole notre attention. Il est question d'une adoration de l'image aussi. Quelque part, ça m'a toujours frappé. Alors bon, c'est peut-être une fausse interprétation, ça c'est la mienne, hein, j'en assume l'entière responsabilité, mais quand il est dit que dans les derniers temps, les hommes adoreront l'image, quelque part, ça m'a toujours frappé, et ça m'a rendu un petit peu méfiant par rapport à l'image en général. D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que je remarque des amis dans différents groupes d'amis, soit musulmans, soit catholiques, soit protestants. Je remarque que chez les musulmans, l'image est très, très présente. J'ai été l'autre jour chez des amis manger, et donc on mangeait avec la télévision allumée. Donc à côté, ça, c'était absolument pas un problème, j'étais là, etc. Bon, c'était... Voilà, chez les catholiques, il y a aussi un peu un côté... quelque part, c'est un peu leur tradition. Hein. C'est saint, on n'a pas accès à la parole, c'est beaucoup plus aussi véhiculé. L'évangile et la Bible est aussi beaucoup véhiculé par le véhicule, par l'image, en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Mais je trouve qu'il faut faire un petit peu attention, c'est pas dire, encore une fois, hein, donc tout est permis, mais tout n'est pas forcément utile. Faire un peu attention, parce que finalement, l'image, c'est aussi la convoitise des yeux. Ça, j'en parle aussi à bon escient. C'est quelque chose qui n'est pas facile aussi pour moi, cette convoitise qu'on peut avoir à travers l'image. Ça peut être une sacrée tentation. Et un peu, c'est un peu cette télévision, ces médias, l'Internet, c'est un peu le monde qui rentre chez moi et qui s'invite chez moi, alors que ça devrait être un sanctuaire. Hein. Nos maisons devraient être des sanctuaires. Et des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a des influences qui rentrent par certains canaux, et c'est des fois, on ne s'en rend peut-être pas toujours compte. Donc, pour finir, j'aimerais dire, soyons des chrétiens qui répandent comme un parfum de bonne odeur pour nos contemporains, qui soient capables de changer une atmosphère ambiante et que nos actes, que nos gestes puissent être l'expression d'une foi sincère. C'est cela qui fera toute la différence et qui encouragera d'autres personnes à embrasser la foi chrétienne. Oui, ce n'est pas forcément des paroles, bien que la prédication elle est importante aussi, hein, pour rendre captives les âmes à Jésus-Christ. C'est aussi important de dire, il faut dire cette foi pour que les personnes sachent ce que c'est. Mais il y a aussi quand même cette attitude du chrétien, du croyant, qui doit donner envie aussi de se convertir et de connaître Jésus. Donc, j'aimerais juste vous laisser avec cette question de Jésus dans Luc 18:8, ce sera le mot de la fin. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Amen.